On termine avec la revue de presse. Et pour commencer notre revue de presse, quoi de mieux que de parier de Donald Trump? Monsieur Salgado nous a un peu mis à table, hein, Donald Trump et son gouvernement. Et il y a une montée de la droite aussi par rapport à tous ceux qui défendent le gouvernement de Donald Trump, qui sont des alliés. Il y a vraiment un coup qui a été donné contre les personnes en situation de handicap. Là, il y a des propos qui sont dérangeants, qui sont même très inquiétants contre les personnes en situation de handicap, là, qui s'apparentent à de l'eugénisme, là, c'est-à-dire un contrôle de la population, un contrôle génétique de la population. Entre autres, certaines personnes donc appellent à complètement stériliser les personnes en situation de handicap parce qu'ils auraient des gènes, et je cite ici, de faible qualité. Il y a aussi donc dans les CHSLD des coupures et des gens qui ont pris la parole contre la présence d'interprètes en langue de signes dans les conférences de presse parce que ce serait dérangeant pour la personne qui écoute, qui n'a pas besoin d'interprètes en langue des signes. Il y a également donc des propos donc de la sous-secrétaire aux affaires publiques du gouvernement Trump, donc quand même quelqu'un de proche dans le gouvernement, qui incite au contrôle de la population, donc à la stérilisation de masse des personnes en situation de handicap. On s'entend pour dire que c'est quand même grave, hein? C'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas cru voir de la part d'un autre gouvernement, mais on dirait que de la part du gouvernement Trump, c'est moins, je devrais dire, c'est quelque chose qu'on attendait, c'est-à-dire un coup contre les personnes en situation de handicap, mais c'est pas parce qu'on l'attendait, évidemment, là, que c'est plus respectable et qu'il faut laisser faire, bien sûr. Parce que ça pourrait évidemment là, dégénérer au niveau des droits des personnes en situation de handicap. Donc, il faut surveiller ça de près, hein. On parle de plusieurs coupures qui vont être faites dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et il va falloir probablement une levée de bouclier aux États-Unis pour défendre les droits des personnes en situation de handicap là, sous le gouvernement de Donald Trump. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines. Aussi, on a un article qui vient de The Economist qui nous parle donc des plateaux de travail. Donc, les plateaux de travail, là, c'est des endroits où on insère socialement des personnes en situation de handicap, particulièrement des personnes en situation de handicap intellectuel, qui sont quand même importants. Donc, des personnes qui ne pourraient pas être en situation d'emploi normale, donc en situation d'emploi dans les magasins de façon salariés traditionnels, hein. Donc on a des plateaux de travail qui accueillent ces personnes-là, et là toujours aux États-Unis, donc The Economist a sorti un article pour se questionner, hein, sur la présence de ces plateaux de travail-là, mais surtout sur le salaire qui est donné aux personnes en situation de handicap. Donc on parle de salaire de plus ou moins 3 $ par semaine pour 10 heures de travail. Donc, évidemment, c'est très peu. Hein. On a aussi des plateaux de travail au Québec et on fait face aux mêmes enjeux. Hein. Les personnes en situation de handicap sont soit pas payées, soit très peu payées. Parfois, ils reçoivent des billets de bus pour réponse à leur travail, pour les remercier de leur travail. Hein. Et on s'entend, là, payer son épicerie avec des billets de bus, c'est relativement difficile. Donc, il faut se questionner parce qu'évidemment, ces personnes-là ne peuvent pas être en situation d'emploi dans des commerces traditionnels, mais est-ce que c'est une excuse pour payer ces gens-là à 3 $ par semaine ou ne pas les payer du tout, que ce soit aux États-Unis ou au Québec? En même temps, les premières personnes qui viennent à la défense de ce type de plateau de travail et de la façon dont ils fonctionnent, c'est les parents de ces personnes-là. Et je vous explique, en fait, c'est que les parents de ces personnes-là disent « Si on ferme les plateaux de travail, mon enfant n'aura plus d'endroit où aller travailler. » Okay, donc, j'aime mieux qu'il travaille à 3 heures par semaine. Ça lui permet d'avoir des gens, ça lui permet de normaliser sa situation, d'apprendre quelque chose, de pouvoir sortir de la maison. Donc, je préfère ça au fait de fermer puis à tout travail. Donc, c'est vraiment un questionnement à avoir, hein, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort de ces personnes-là sans pour autant fermer complètement les plateaux de travail et relayer donc ces personnes-là à la maison. Les plateaux de travail ont quand même des points positifs, c'est-à-dire que ça aide les personnes à sortir de la maison, ça leur apprend un métier quand même. Mais il faut quand même se questionner à savoir est-ce qu'on le fait de la bonne façon? Est-ce que les plateaux de travail doivent être revus? Est-ce qu'il y aurait façon de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de mieux répondre à leurs droits sans pour autant fermer les plateaux de travail? Donc, c'est une question qui est posée par des économistes et que je vous pose également là, parce que, comme je l'ai dit, la situation au Québec est sensiblement la même. Donc, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'appelle à la réflexion. Pour les personnes que ça pourrait intéresser. Et évidemment, il y a énormément d'universitaires qui travaillent sur ce type d'enjeux qui pourraient se prononcer et qui pourraient trouver là, différentes solutions au plateau de travail. Et en terminant, donc, on parle des terminaux de paiement qui sont inaccessibles. C'est le RAM, donc nos amis du RAM qui ont parlé de ça là, la semaine dernière. Les terminaux de paiement, donc l'endroit où on met notre carte de crédit là, pour payer au paiement là, sans contact, entre autres. Il y a des personnes en situation de handicap là, qui ne peuvent pas, évidemment, se rendre jusqu'au plateau de paiement parce qu'ils sont trop hauts. Dans la plupart des cas, ils sont trop hauts, ils sont sur un comptoir. Donc, les personnes en situation de handicap ne peuvent pas nécessairement y accéder. Donc, ils doivent donner leur carte à quelqu'un d'autre. Quand ils doivent payer avec un NIP, ils doivent confier leur NIP à quelqu'un. Hein. Ce n'est pas nécessairement au niveau de la sécurité bancaire, c'est pas nécessairement quelque chose à privilégier, mais il faut comprendre que les personnes en situation de handicap, parfois, n'ont pas le choix. Et donc, c'est tout simple. Hein. Mais ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir au niveau de l'autonomie des personnes en situation de handicap, d'être capable de payer dans un magasin sans avoir confié son NIP à quelqu'un d'autre. C'est une bonne base au niveau de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Donc, il faudrait réfléchir au fait qu'un commerce accessible, ça passe évidemment par une rampe à l'entrée, ça passe par des porte assez grande, mais ça passe aussi par l'accessibilité des terminaux de paiement pour que les personnes en situation de handicap soient capables de payer par eux-mêmes leurs achats. Donc, encore une fois, j'en ai pas les réponses, mais je vous offre de réfléchir à des moyens pour rendre la société plus inclusive par ce genre de petits gestes-là. C'est tout pour la revue de presse. Merci à Mathieu Tessier qui était de retour à la régie. Merci à Claire Guérin, à la recherche, et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Sans détour. Bonne semaine tout le monde.